Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 15 juillet 2026. On se retrouve donc avec une inflation aux États-Unis et c'est la bonne nouvelle du moment qui recule considérablement au-delà des attentes. On est passé par rapport à mai de 4,2% à 3,5% en juin. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça accréditerait la thèse de ceux qui parlaient en effet d'un choc inflationniste qui reculerait rapidement vis-à-vis de ce qui s'est passé vis-à-vis de l'Iran et qui par la suite ne forcerait pas la Fed avec sa direction désormais, Kevin Warsh, comme vous le savez, a augmenté les taux en 2026. C'est ce que jouait le marché, c'est ce qu'anticipe le marché. Et aujourd'hui, eh bien, pour l'instant, ça a l'air d'être dans les clous des attentes. Donc peut-être eh bien, une bonne nouvelle, en tout cas multimarché pour cet été et automne 2026. Malgré tout, quand on observe comme ça un petit peu les métriques, oui, à court terme, le VIX est toujours bas, donc pas d'alerte de ce côté-là. Et on continue, peu importe où l'on regarde, que ça soit le Nasdaq, le S&P, de graviter très haut et de vouloir se tirer continuellement vers le haut. Le truc, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un retour aux moyennes. Alors, longtemps, tout est relatif, puisque en mars 2026 de cette année, il y a quelques mois, on était revenu travailler autour de la moyenne mobile 50. Mais c'est vrai que depuis, voilà, on a une petite consolidation récente ici. Et on va voir donc cet été si on descend un peu plus bas, si on latéralise, ce qui serait plutôt accrédité par des oscillateurs, comme on le voit en bas, que ce soit le RSI ou le MACD, qui perdent en vélocité de la part des acheteurs petit à petit. Donc peut-être un mois de juillet finalement plutôt positif et c'est ce qu'on voit également du côté de la crypto. Et par la suite un mois d'août qui serait un peu plus en demi-teinte. Le S&P 500 autour de 7543, on est très très proche de l'ATH. Pareil, on commence à faire le dos rond au niveau des oscillateurs. Le dollar, le fameux DXY qui est donc le dollar face à un panier de devises majoritairement composé de l'euro mais pas que, revient au contact de la moyenne mobile 100. On est à 100.77, donc on est en train de retester cette zone de sortie qui, basiquement, est autour de 100 points tout pile. Du côté du CAC 40 pour la France, ça continue un petit peu de faire le yo-yo. Donc, on a des rotations sectorielles par moment, mais on n'a pas véritablement de lead en tant que tel du côté de l'Europe. Et c'est ce qui est très bien retranscrit en règle générale au niveau des performances quand on regarde sur des dizaines d'années. Ceci étant dit, aujourd'hui, il est peut-être dommage de n'avoir que des États-Unis en portefeuille, d'autant plus avec cette ère ultra concentré autour de l'IA, des semi-conducteurs, etc. et de ne pas regarder justement ce qui performe peut-être un peu moins aujourd'hui ailleurs. En attendant, il y a des trucs qui continuent d'être un petit peu alarmants. C'est le taux à 30 ans et à 20 ans qui sont toujours tous deux proches des 5,11. D'ailleurs, on l'a légèrement dépassé pour le 20 ans. On avait un point dur en octobre 2023 qui était à 5,4 pour le 20 ans et pour le 30 ans, on est à 5,10,7 avec un ATH récent autour de 5,2. Donc en l'état, ça veut dire que si vous achetez des obligations, des bons au trésor des États-Unis, de la dette américaine pour résumer ça, sur 30 ans, tous les ans, on va vous verser, et je crois que c'est sur une base trimestrielle ou semestrielle, vous récupérerez à l'année 5%, plus de 5% même. Et la logique quelque part obligataire, c'est que si ce taux continue de monter, et pour l'instant, ça fait pas mal de temps qu'il a l'air de vouloir progresser, donc voilà, c'est quand même un risque qui est sur la table, eh bien votre obligation va se déprécier, mais vous continuerez de toucher tous les ans votre coupon de 5%. Donc si vous vous dites, ok, j'accepte peu importe la volatilité, peu importe les placements long terme, et sous couvert que les États-Unis ne fassent pas faillite, bien entendu, de prêter mon argent comme ça aux États-Unis, d'acheter leur bon au trésor, et sur 20 ans, 30 ans, on va me verser 5,1% par an, le tout en ayant en tête malgré tout qu'aujourd'hui on est sur des taux qui sont relativement hauts par rapport à l'historique. Alors on n'est pas au plus haut bien entendu quand on remonte notamment dans les années 80 etc, mais je suppose que le monde a un petit peu changé depuis. Et le truc à jouer donc, comme vous l'aurez compris, si quand ce rendement monte, l'obligation en tant que telle perd de sa valeur par rapport au prix à laquelle vous l'aurez acheté, eh bien l'effet inverse est vrai aussi, c'est-à-dire aujourd'hui on peut sécuriser du 20 et 30 ans autour de 5,1 et si si par la suite le rendement baisse, eh bien vous aurez votre obligation qui devient beaucoup plus désirable au marché, puisque admettons qu'un jour on revienne ne serait-ce qu'à 4,5% autour de la moyenne mobile 200 semaines pour le 30 ans, eh bien ça voudra dire que vous, vous avez sécurisé un paiement autour de 5,1. Donc il y aura des gens qui paieront le delta quelque part, qui vous achèteront votre obligation beaucoup plus cher au fur et à mesure que ce rendement viendra à baisser. Donc j'essaie de vous l'expliquer comme ça avec mes mots pour pas que ça soit trop compliqué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, on a un marché obligataire qui continue d'être très très haut pour les États-Unis et ça laisse se poser pas mal de questions pour la suite, notamment par rapport au soutien au travers du temps de cette dette américaine. 4,6% pour le 10 ans, c'est pas non plus rien. Donc là, on s'engage moins longtemps quelque part, une dizaine d'années à 4,6% pour un petit pourcentage du portefeuille. Ou bien si vous êtes déjà à la retraite 60, 70 ans, etc., et que vous ne voulez plus subir la volatilité complètement monstre des marchés d'aujourd'hui, eh bien je dis une bêtise au pif, mais quelqu'un qui voudrait avoir une rente entre guillemets, qui a réussi tout au long de sa vie justement à économiser 200, 300, 500 000 euros, peut-être 1 million pour ceux qui auraient vendu un petit peu d'immobilier entre temps, et je pense notamment aux boomers, et qui derrière auraient réussi comme ça à avoir une petite somme à la retraite. Évidemment que prendre entre 4,6 et plus de 5%, le tout de manière entre guillemets sécurisée, puisque rien n'est complètement jamais sécure, je pense qu'il se passera quand même du temps avant que les États-Unis fassent faillite, mais c'est quand même quelque chose à prendre en considération. J'attire votre attention également en passant rapidement sur le CW8 Amundi Monde, que c'est aujourd'hui le 15 juillet 2026 qui est lancé donc sur la bourse française, toujours chez Amundi. Le All World Country, c'est avec deux I à la fin, ACWII. Le ticker, je ne l'ai pas en tête, mais vous trouverez ça assez simplement en regardant du côté des réseaux sociaux. C'est aujourd'hui, donc il n'y a pas encore beaucoup de liquidités et vous allez pouvoir investir donc sur 2400 des plus grosses entreprises mondiales, y compris l'Asie, que ne contient pas au niveau pays émergents, entre guillemets, le CW8 et le WPEA, donc qui sont des mondes beaucoup plus restreints et très concentrés, comme vous le savez, du côté des États-Unis. Donc pour ceux qui ont un PEA, eh bien, c'est peut-être la monoligne qu'il vous faut. Comme d'habitude, je ne suis pas ni payé par Amundi et je suis encore moins conseiller financier. Donc je suis juste là pour vous donner les informations quand elles arrivent. Je ne sais pas ce que ça donnera, je ne sais pas quel type d'encours cela va générer en termes d'engouement, mais du côté des réseaux sociaux, il y avait pas mal de personnes qui avaient l'air ravies d'avoir plus qu'une seule ligne plutôt qu'une grosse diversification entre les États-Unis, l'Europe, les marchés émergents. Ceci étant dit, quand on est sur les ETF, entre une ligne ou trois lignes, ça va quand même pas changer la face du monde. Côté métaux précieux, ça continue donc de consolider pour le gold. On est toujours baissier moyen court terme, tandis qu'on est très haussier long terme, bien entendu. Donc pour le moment, eh bien, dès lors qu'on s'approche des 4 000 $, pourquoi pas. Et par la suite, on verra comment va se passer cet été. On passe à nos bonnes vieilles crypto-monnaies avec le crypto total de 1210 milliards au contact de la moyenne mobile 200, il nous faudra franchir la 20 qui se trouve aujourd'hui autour de 2350 et par la suite franchir les 2500 milliards. La sortie du bear market, comme vous le savez, se passera quelque part entre 2900 et 3000 milliards. En guise de pourcentage, je vais vous le dire, ça nous représente à peu près 32 à 35, 36%. Donc quand on résume en crypto total, ça paraît pas si loin. Et il y a quelque chose, ça fait pas mal de temps que je suis en train de me dire, quand j'observe les altcoins et notamment face à Bitcoin en plus du dollar, j'ai la sensation que les alts ont d'ores et déjà fait leur point bas par rapport à BTC. Et c'est un peu contre-intuitif puisque si BTC finit sa course entre août et l'automne, on va dire, autour de 50 000, on l'a vu, cette fameuse zone de 50 000, à plus ou moins aujourd'hui, quand on resserre un petit peu les trucs, 5 000 $, on pourrait dire 45-55, si vraiment on voulait faire un écart un peu plus serré, tout en ayant bien en tête que potentiellement les 57 qui ont été déjà touchés sur Bitcoin pourraient être le point bas vu qu'on est venu travailler autour de la moyenne mobile 200 et qu'aujourd'hui l'institutionnalisation du domaine fait que eh bien, la moyenne mobile 200 est plus intéressante que de laisser couler un petit peu le truc comme en 2022 quand il y a eu Terra et FTX. Donc la moyenne mobile à 300 semaines, elle est ici en rouge autour de 55 000 $, mais est-ce qu'on aura véritablement le jus sur ce bear market désormais qu'on n'a plus les mêmes joueurs à la table pour aller pousser le prix beaucoup plus bas? C'est plutôt ça la question. Je reviens vite fait donc au crypto total 2 et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les choses déjà, lui, voilà, on a toutes les moyennes mobiles long terme qui sont ici, la 300, la 200, on a la 20 qui redescend par le nord, et la 50 qui est autour de 1200 milliards approximativement. C'est vrai qu'on se pose pas mal la question, quand bien même Bitcoin irait à 50 000, voilà, on va faire des comptes ronds, est-ce que le bottom, le point bas, n'a pas été déjà fait du côté des alts? Alors, quand je dis les alts, c'est prioritairement tous ceux qu'on connaît, les gros dossiers, les Solana, les Ethereum, Hyperliquid, c'est pas la peine d'en parler, puisque lui, il a même pas fait de point bas, j'ai envie de dire, sur ce bear market. Bon, il était venu à 20 dollars avant que les autres prennent encore plus tarif, puisqu'il avait connu sa propre envolée. On a du Chainlink, on a du NIR, on a Tao BitTensor, c'est pas trop ma cam, mais voilà, je sais que ceux qui surveillent l'IA, etc., continuent de le soutenir pour certains. On a le BNB pour la plateforme de Binance. On a, pourquoi pas, AAV slash Morpho pour la DeFi slash Lido pour le liquid staking et tout ce qui gravite autour qui est en ce moment. D'ailleurs, depuis que Ethereum reprend un tout petit peu de force, eh bien, on a l'ensemble du domaine qui reprend de la force. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez aussi que les alts, en tout cas les bons élèves, entre grands guillemets, ont potentiellement d'ores et déjà fait leur point bas, tout en ayant en tête que si Bitcoin se retrouvait à 50 000 dollars, eh bien, voilà, on revirait une tirette de flambier, comme on a souvent dit sur la chaîne, du côté des altcoins également, mais peut-être pas un nouveau point bas. C'est plutôt comme ça que j'essaie de réfléchir en ce moment, et c'est l'impression en tout cas que cela m'en donne. 65 000 pour BTC qui reprend la moyenne mobile 200, donc on a une zone dure malgré tout, hein, jusqu'à 68, voire 70, 71, où nous attend pour la moyenne mobile 20 semaines autour de 70, cette zone donc relativement dure. On aura un autre petit cluster à 77, 78, et la reprise du bull run pour Bitcoin qui aujourd'hui pourra se faire dès lors qu'on reprendra 84 à 86 où nous attend la moyenne mobile à 50 semaines. Et comme vous le savez, lorsqu'on est en phase ascensionnelle par la suite, eh bien, on ne repasse quasiment jamais sous cette moyenne mobile 50, et voire même quand on est vraiment dans l'accélération verticale, on voit qu'on ne touche même plus, comme on l'a fait ici en 2020, la moyenne mobile 20. Alors sur le bull run de 2023-2025, on voit que c'était un petit peu plus tarabiscoté, on a mis un petit moment à passer au-dessus de la moyenne mobile 20, on est revenu travailler la moyenne mobile 50 en septembre 2024, on est revenu s'appuyer dessus en mars 2025, et à partir du moment où on la perd, précisément en novembre 2025 ici, on voit que c'est le bear market. On s'est fait repousser un petit peu avant, donc ça aurait été bien de retoucher les 100 000, mais ça a été vendu, c'était un peu le prix psychologique juste ici en janvier 2026, mi-janvier, autour de 98 000 pour Bitcoin, et ensuite ça a été un enchaînement de points bas toujours plus bas. C'est la théorie de Do. Donc pour l'instant, pour le court terme, pour Bitcoin, on est baissier. Le moyen terme, on va dire neutre. Et le long terme reste résolument haussier, bien entendu, en espérant que, eh bien, dans les prochains trimestres, cette petite divergence ici, petit à petit, porte ses fruits et qu'on ait par la suite, eh bien, la validation dans les 6 mois de temps qui nous séparent de cette fin d'année 2026, que le point bas est d'ores et déjà fait et que tout ceci est derrière nous pour profiter de 2027 à 2030. Ether qui reprend un petit peu de force, ça donne un petit peu d'espoir, mais ça reste toujours timoré, bien entendu, autour de 1890 dollars après avoir défendu à 2 reprises les 1500 tout pile. Pareil, on avait une belle divergence ici. Le RSI s'est arrêté systématiquement autour de 20. C'est également la zone qui avait été défendue en mars 2025 lorsque on avait méché ici autour de 1400 dollars, donc au moment des tarifs de Trump. Donc on a désormais des zones qui sont, comme vous le savez, alors la moyenne mobile 20 ici, je pense qu'elle aura assez peu d'importance, mais elle est aujourd'hui autour de 2000. Le pivot qui pour moi est un point très important pour Ether autour de 2150. Moyenne mobile 200 et moyenne mobile 300 semaines parfaitement alignées à 2430 et 2475. Et enfin, la zone de démarcation de reprise du bull pour Ether, 2870 pour la MM50. Et par la suite, il faudra s'extirper ici pour la double validation des 3400 pour espérer rallier les fameux 4900, franchir les 5000, et une fois que vraiment, si un jour là dans les 2-3 années qui viennent on franchit ces 5000 et que les institutionnels petit à petit se disent ah ben finalement il y a un petit truc en plus de Bitcoin qu'on peut acheter sur les ETF, en plus on nous verse 2-3% par an juste pour les détenir de par le rendement même du proof of stake de Ethereum. Donc aujourd'hui ils existent, hein, ces ETF, on a littéralement en un clic la possibilité d'acheter une ligne pour les institutionnels qui au-delà de l'action de prix, plus elle montera, plus l'actif redeviendra désirable, vous vous en doutez bien, permet de pitcher quelque part à leurs investisseurs qu'il y a un genre de dividende sur Ethereum, entre grands guillemets, qui vient abonder comme ça 2,2-2,5% actuellement par an dans la monnaie directement. C'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part. Du côté des minières, toujours pas plus, pas moins. On a SBET, Sharplink qui reprend un petit peu, plus 10%. CLSK au contact d'une zone pivot autour de $14. MicroStrategy 97,58. Il va falloir reprendre beaucoup, beaucoup de zones et beaucoup de force pour MSTR. C'est devenu un petit peu compliqué. Coinbase à 161 continue de latéraliser, mais je pense qu'il ne va pas le faire encore pour longtemps. En tout cas, si les crypto-monnaies progressent positivement, vous vous doutez bien que ce truc, c'est un petit peu une cocotte minute qui va finir par délivrer également eh bien, quelque chose. Comme d'habitude, hein, je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit. Je vous donne ma lecture court terme de ce que je vois sur les graphiques et je peux très largement me tromper. Donc, c'est de la probabilité, de la statistique, de l'expérience aussi désormais, parce que ça fait quand même 8 bonnes années que j'essaie de manger quasi quotidiennement des graphiques. Donc, au bout d'un moment, c'est un petit peu de la réciproque qu'on voit encore et encore. Et de temps en temps, eh bien, on essaie d'avoir certaines chances en notre faveur et de prendre des positions qui sont quelque part des paris sur l'avenir en fonction justement de ce qu'on a sous les yeux. Circle, qui après la semaine dernière nous avait fait une petite poussée à $73, souvenez-vous, il y avait eu l'approbation donc pour eux de se considérer comme une banque. Eh bien, pour l'instant, ça n'est pas l'engouement monstre, en tout cas, qui se bouscule au portillon sur Circle. Je pense qu'aujourd'hui, dans tous les cas, ça représente un risque beaucoup plus important, par exemple, que Coinbase. Le rendement sera supérieur si ça repart, bien entendu, lors d'un bull run par rapport à Coinbase, mais Coinbase représente aujourd'hui un risque de ruine infiniment inférieur par rapport à Circle. Et ça, j'insiste bien aujourd'hui sur ce fameux mot, le risque de ruine, puisque c'est quelque chose, c'est exactement ce que je vous disais par rapport à Ethereum il y a quelques émissions de ça, peut-être maximum un mois. Si Ether, quand il était à $1,500, revenait autour de 1200-1400, déjà ça aurait été assez extraordinaire de le revoir à 1400 puisqu'on était à 1500, mais on voit que le marché a payé, a décidé de prendre un petit peu le contre-pied. À partir du moment où aujourd'hui on a un prix de référence sur Ethereum, un référentiel autour de $4,900-$5,000, si j'accepte de perdre $1,000-$1,500, c'est-à-dire la fourchette dans laquelle je vais payer Ethereum sur son supposé point bas sur lequel je ne peux avoir de certitude, j'accepte sur le papier de perdre 1000-1005, risque de ruine absolu, Ethereum va à zéro, par rapport à un excédent de richesse positif qui irait de 1500 jusqu'à 5000. Et aujourd'hui, bien entendu, il y aura toujours la possibilité de couper en dessous des $1,000 si Ethereum y venait et que voilà, c'était l'apocalypse sur le marché. Donc finalement, on ne perdrait pas 100%. Le risque de ruine, c'est quelque chose d'extrême, un petit peu dans la conception même qu'on peut s'en faire. Mais je trouve ça intéressant de raisonner un petit peu comme on l'avait fait à l'époque quand on était autour de 15 000 sur Bitcoin et que tout le monde disait « Ouais, mais c'est sûr qu'on va à 12-13 000. » Donc moi, je l'attends à 12-13 000 et il y en a plein qui se sont fait avoir comme ça et qui par la suite ont couru après le train, ont payé à 20 000, à 30 000, à 40 000, à 60 000 et l'histoire on la connaît. Donc aujourd'hui j'essaie la plupart du temps de raisonner comme ça. Si je mets 1 000-1 500 $ sur la table, est-ce que je peux les perdre? Est-ce que je peux laisser cet investissement travailler pour les prochaines années sans avoir besoin à quelconque moment que ce soit de mes 1 000-1 500 $ quand j'achète un Ether? Et à partir du moment où vous arrivez à répondre à cette question par l'affirmative, que vous n'avez pas besoin de cet argent et que vous pensez que Ether entre 1000-1005, en tout cas par rapport au cycle passé, c'est un prix qui vous semble à peu près convenable, normalement vous êtes totalement aligné pour la suite. Vous avez bien jaugé de votre côté du risque ratio récompense slash ruine et derrière, eh bien, psychologiquement, ça fait quand même toute la différence puisque d'un côté vous vous dites ok, j'accepte de perdre ces 1000-1005, mais derrière peut-être que dans 3 ans ils se seront transformés en 5000, en tout cas c'est l'ATH aujourd'hui, mais surtout le but derrière c'est d'avoir plutôt 7000, 10000, etc. avec un prix qui franchira ce fameux ATH. Au rayon des actions américaines, quelle bougie du côté de IBM, moins 25% en séance, on revient quasi au contact de la moyenne mobile 200. Donc j'ai pas vu quelle était l'information, j'ai vu que ça s'agitait un petit peu sur les réseaux sociaux, mais je vous avouerai que c'est pas un titre que je suis forcément. Donc voilà, un recul quand même assez important par rapport à ça. On a Robinhood qui reprend également toujours un petit peu de force, donc lui on peut d'ores et déjà dire dire que le point bas a été fait en mars 2026. On avait une belle amplitude MACD. On est repassé au-dessus de la zone neutre. Ce n'est pas forcément le moment à 120, 115 ici pour rentrer immédiatement. Le but, ça serait qu'ils reviennent buter sur ces 153, 154 de l'ATH et que plus tard, on le revoit peut-être justement dans cette zone entre 80 et 100 dollars pour Robinhood. Mais pour ceux qui n'ont pas encore payé ce point bas ici quand il était à 65, c'est vrai que ça risque d'être par la suite un point bas qu'on ne reverra pas forcément immédiatement. Mais comme d'habitude, on n'a aucune certitude. On a Nvidia aussi qui depuis 3 semaines a repris de la force, 212 dollars pour un ATH aujourd'hui à 236. En parlant de Amundi, eh bien, c'est une des actions qui se comporte très très bien. On parle des vendeurs de pioches et de pelles, puisque voilà, le ETF qui sort aujourd'hui pour la bourse française et pour le PEA, eh bien, c'est eux qui les mettent. On voit qu'on avait eu un point bas en octobre 2022 autour de 40 euros. On est aujourd'hui à 90. Pareillement, c'est difficile de payer quand on est haut comme ça et quand on devient un petit peu vertical. On attendra plus tard des retours aux moyennes. La moyenne mobile 50 est aujourd'hui à 74 euros et la 200 et 300 qui sont parfaitement alignés, ce qui prouve aussi un petit peu la stabilité du titre malgré tout au long cours, est autour de 64-65 euros pour Amundi. Du côté des altcoins, on a Hyperliquid autour de 67 dollars. Comme je vous dis, j'attends toujours à minima un retour à la moyenne mobile 20, 50 dollars, moyenne mobile 50, 43. C'est pas parce que ça m'intéresse pas ici aujourd'hui autour de 65-70 dollars, c'est plutôt la projection que je m'en fais pour le futur. On a déjà quelque chose qui est bien capitalisé, donc systématiquement, mettons-le en rapport par rapport aux autres projets et par rapport à la capitalisation globale du marché crypto pour ne pas partir sur des objectifs qui sont complètement irréalistes. NIR également se comporte plutôt pas mal depuis cette énorme mèche qu'on avait faite en février 2026, donc c'est il n'y a pas si longtemps, autour de 84 centimes. On est venu ensuite chercher du 3 dollars. Contact de la moyenne mobile 50 depuis un bon mois ici. Je suppose, là aussi, sans trop m'avancer, que cette mèche complètement folle des 85 centimes faisait état d'un point bas pour NIR et ça fait partie de ceux que je ne revois pas quelque part visiter par exemple sous les 1 dollar. J'espère bien entendu ne pas me tromper et c'est pour ça que de toute façon je ne me précipiterai pas du côté des altcoins et aujourd'hui en plus pour ceux qui ont un petit peu suivi l'actualité autour de CM, ne possédant plus de crypto-monnaie en direct et me positionnant au travers des ETF, c'est un petit peu plus difficile pour ma part si un jour je veux faire machine arrière sans avoir un échangeur centralisé à portée de main pour acheter directement des tokens, il me faudra passer par un DEX, etc. Donc aujourd'hui, pour ma part, je suis pas super pressé de me repositionner sur les alts. Quand on va voir la train de reprendre du côté des cryptos, on le sentira, on le verra, on aura des gros pourcentages réguliers, on aura des grosses rentrées régulières du côté des ETF et des institutionnels. Donc aujourd'hui, voilà, il y a quand même des dossiers intéressants, bien entendu, mais comme d'habitude, comme je vous disais la dernière fois, il faut bien les sélectionner et les meilleurs dossiers des alts qui ont prouvé leur longévité, quelque part, leur résilience, se comptent aujourd'hui un petit peu sur les doigts d'une main. Solana, toujours au contact, donc de la zone dure des 78-80 dollars avec la moyenne mobile 20. Si ça passe, on pourra viser 108. Ensuite, avec la moyenne mobile 200, on aura la 50 à 127 avec une zone de polarité à 135. Le Lido token, quand bien même il est très dégradé, je pense également qu'il a fait son point bas avec cette très très belle divergence ici. Il faudra franchir ensuite 47 centimes pour espérer rallier autour de 61 centimes pour Lido. Mais on part de très très loin pour le coup. Chainlink, 8,40 $. Il nous refait un petit peu ce qu'il a fait à l'époque et lui ça avait pris un temps monstre. On était rentré dans cette box en mai 2022, on s'en extrait en octobre 2023. C'est un range qui était super lisible et qui derrière, pour ceux qui se sont positionnés ne serait-ce qu'en milieu de range autour de 7,25 $, a permis soit dans un premier temps de sortir autour de 23 $, soit de sortir par la suite en décembre 2024 autour de 30-31 $. Donc c'est pas des mouvements qui vont rendre la planète entière riche, mais prendre comme ça en un an de temps à peu près x2, x3, x4 parfois du côté de certains altcoins qui sont des dinocoins désormais, c'est-à-dire ils ont plusieurs cycles. Ça reste quand même, quand on regarde les performances boursières de base et des indices, des rendements qui en peu de temps sont quand même assez intéressants je suppose. Uniswap c'est un peu la limonade Lido également, il faudra reprendre les 4 $. On a fait un point donc il n'y a pas si longtemps autour de 2,31, ça reste dégradé. Si on repasse au-dessus des des 4 dollars, eh bien on aura les 5,25 avec la moyenne mobile 50, les 6,85 moyenne mobile 200 et ensuite un vrai bon plafond autour de 9 dollars. Le BNB, que ça soit contre le dollar ou contre le Bitcoin, se comporte très bien sur cette fin de cycle baissier, on l'espère, au contact de toutes les moyennes mobiles qui sont paquées. On a rarement vu ça hein, sur un actif comme ça, que ça soit à la 20, à la 300 semaines, on est vraiment latéralisation tout azimut du côté du BNB et ça se retranscrit donc par une quasi-touchette récente à 538 dollars de la moyenne mobile 200. On a le barrage juste devant à 620 avec la moyenne mobile 20 et il faudra dégoupiller les 680 pour espérer rallier la moyenne mobile 50 à 790 dollars pour un ATH de BNB aujourd'hui à 1370. On terminera avec deux petits autres alts et ensuite on passe à l'Asie pour clôturer cette émission avec Injective 5 dollars qui pareillement pour moi a fait son point bas précédemment à 2,70. Moyenne mobile 50 qui a fait office de barrage à 7,31 récemment. On a une petite zone de polarité également à 6,3 et ensuite on a un plafond vraiment dur entre 10 à 13 dollars et plus où nous attend la moyenne mobile 200 pour Injective. Et on clôturera avec notre bon vieil AAV. On continue de le suivre bien entendu. J'avais pas mal vendu et je pense que beaucoup de la communauté aussi ont vendu sur ce cycle. Donc quand on était repassé d'une belle zone d'accumulation à 50 dollars, on est venu chercher du 40 dollars. Donc c'était quand même une performance qui était assez monstre pour le coup. Aujourd'hui, on a revu 58, 59 dollars. On est de retour à 100 dollars. 100 dollars si on vise ne serait-ce que 400. Voilà, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire le delta que ça peut faire 100 par rapport à 400. Je vous laisse faire un petit peu de calcul mental de bon matin. Ça devrait le faire, 100 à 400, et en termes de pourcentage et en termes de prix. Mais je suppose que voilà, ça reste aujourd'hui un risque peut-être. Est-ce qu'il faut encore le prendre? C'est ça la question du côté de la DeFi. Et pour ceux qui continuent de s'y intéresser, est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir un petit peu un bag mitigé entre AAV, Morpho et peut-être une ou deux autres cryptos? En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, vous êtes encore beaucoup à suivre la DeFi et la finance décentralisée. Donc à vous de voir ce sur quoi vous voulez vous positionner et surtout ce sur quoi vous avez des convictions pour du long terme, puisque petit à petit, on l'a vu ces dernières années, beaucoup de lignes ont bougé et jusque à la DeFi qui aujourd'hui est peut-être un peu moins décentralisée que ce qu'elle a voulu l'être par le passé. On a Samsung qui revient au contact de la moyenne mobile 20 cette semaine. L'appareil sur un truc aussi vertical, comment se positionner? On avait un beau range ici, 2024 à juillet 2025, on était autour de 61 et on est venu chercher donc 376. Aujourd'hui, pour ma part, voilà, c'est un truc que j'observe, mais sur lequel je rentrerai beaucoup plus bas pour le coup, peut-être autour de 170. Ici, on a une petite zone, on va se mettre un rectangle avec la moyenne mobile 50 et on voit qu'on avait une zone de polarité aussi au niveau du cours. Donc, why not si on redescend jusque-là, mais voilà, beaucoup trop vertical pour l'instant. Énormément de titres exécutés sur la bourse coréenne. Toujours au niveau du Kospi, eh bien, Korea Composite Stock, qui est l'équivalent un petit peu du S&P 500 pour la Corée, beaucoup de leviers, beaucoup de volatilité en ce moment, c'est très difficile pour le coup. Alors eux, apparemment, ça n'a pas l'air de trop les déranger de se prendre quasiment toutes les semaines en ce moment des circuits breakers, mais pareil, c'est quelque chose que j'observe de loin pour l'instant et sur lequel on se positionnera le jour où on sera revenu dans ça, c'est-à-dire un long range chiant et pénible sur lequel plus personne ne vous parle de la Corée. Tencent qui depuis 3 semaines nous fait un truc vraiment plutôt sympa, les oscillateurs annonçaient la musique avec un double creux ici qui était divergent par rapport au cours. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, eh bien le cours ici a réalisé 2 points plus bas que le précédent, le tour autour de la moyenne mobile 200, tandis que au niveau du RSI on a fait 2 points plus haut que le précédent, le tout en étant venu chercher la zone de survente. Donc on est pile poil dans le textbook dans une divergence réussie. On a eu beaucoup de titres exécutés et derrière, on est passé de 410 à 473 pour Tencent qui rencontre actuellement la résistance dynamique de sa moyenne mobile 20 semaines. Le topic pour le Japon, pas très loin d'enchaîner pareil un nouvel ATH. On est un petit peu dans le mood S&P et Nasdaq. Le JPY 30 ans, donc l'équivalent des bons au trésor américains version 30 ans à 3,76. Donc, inutile de vous dire qu'aujourd'hui, bien entendu, la majorité se positionne à 5,12 du côté des États-Unis plutôt que sur le Japon 30 ans. Le Nikkei qui fait un petit peu le yo-yo cette semaine, pas plus, pas moins à exploiter de ce côté-là. Du côté de Nintendo, c'est toujours dégradé. Ça me plaît moins que ce qu'on a pu observer sur d'autres actions, mais malgré tout, eh bien, ça fait pas mal de temps que les oscillateurs se sont remis à plat. On a des volumes un petit peu sur le déclin. La question est aujourd'hui, est-ce que Nintendo est correctement valorisé? Est-ce qu'ils ont des bonnes projections pour le futur? Voilà, comme d'habitude, après, il faut rentrer un petit peu dans les détails et dans les comptes et résultats. Alibaba, qui avait défendu sa moyenne mobile 200, il était passé gras en dessous, autour de 92$. On est de retour à 112 avec une zone de pivot à 120. Et enfin, Xiaomi, qui avait touché récemment les 21,32 sur le Hong Kong Exchange. On est au contact de la moyenne mobile 200 à 26, moyenne mobile 20 à 29 et zone de pivot plus tard 36-38 avec la moyenne mobile 50 qui va arriver très fort par le nord. Donc on reste toujours un petit peu dégradé pour ce genre de titre. Mais il y a quand même eu de la réaction par rapport à un bear market qui ressemble un petit peu pour celui des États-Unis à celui qu'on avait connu en 2022 où on avait eu un truc assez vertigineux, assez pentu pour le coup et où on était passé de janvier 2022 à octobre 2022, moins 27, moins 28% pour le S&P 500 et c'est exactement ce que se sont mangés un petit peu la partie asiatique sur leurs gros titres ces derniers trimestres. Je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres choses ou qu'on explore d'autres marchés ou je ne sais quoi. On reste tout à fait ouvert à vos questions et à échanger en commentaire sur le Discord et ailleurs. Continuez d'être prudent, d'ouvrir l'œil cet été en espérant qu'il n'y ait pas trop de volatilité justement pour petit à petit poser les bases de cet automne et de cette rentrée avec, pour ceux qui intéressent notamment les crypto-natifs, le fameux point bas. A-t-il d'ores et déjà été fait du côté de Bitcoin ou verra-t-on enfin la fameuse zone que beaucoup attendent quelque part depuis le début de ce bear market, les fameux 50 000 $? C'est un peu un chiffre psychologique aussi fort aujourd'hui, j'ai l'impression, que les fameux 100 000 qu'on n'arrivait pas à briser pendant très longtemps. En tout cas, ça va être intéressant à observer et je pense que ça soit dans les 6 mois qui nous restent jusqu'à cette fin d'année 2026 et début 2027, on verra quand même de belles choses, quand bien même entre-temps, peut-être effectivement, on aura eu une dernière petite purge. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve samedi pour le récap de l'actu financière de cette semaine. Ciao, ciao.